un petit quelque chose que tu vivras jamais chez toi tout seul. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on est réunis ensemble en Église. Jésus, il a fait cette prière, il a pensé à nous, il a prié pour toi encore ce matin, et il dit que tous soient un. Que tous soient un. Bah, utopique. Jésus rajoutera qu'ils soient un comme nous sommes un. Que tous soient un, qu'ils soient un comme nous sommes un. À qui il parle Jésus ? Il parle à Dieu le Père. Et autant Dieu et Jésus sont indivisibles puisqu'il est Dieu, Dieu sur la terre, Dieu dans le ciel. Dieu dit, nous tous, on peut être un comme Jésus avec le Père. Utopique, c'est le terme, c'est ça ? Une fable ? Impossible ? Ah, ça, c'est ce que les hommes aimeraient juste sous-titrer du mot « église ». C'est juste des fous qui se réunissent, qui espèrent en un Dieu cosmique, qui éventuellement pourrait exaucer des prières de temps en temps. Non, nous croyons en celui qui accomplit le miracle encore aujourd'hui. Et Dieu aurait pu faire autrement, et il nous l'a montré à la création. Il est venu dans un chaos total, il a parlé, la lumière est apparue, l'herbe a poussé, les animaux sont nés, l'homme et la femme ont été créés dans un jardin merveilleux. Dieu a eu besoin de personne pour créer ce qu'il y avait de meilleur et de parfait. Et là, aujourd'hui, ce pasteur qui est en face de vous vous assure qu'il y a encore mieux que le jardin de l'Éden. Ah non, c'est pas possible ça. Il y a plus parce que Dieu veut se servir de toi. Toi, plus quelqu'un d'autre à côté, avec une même foi, une même espérance pour vivre ce que Dieu a prévu. Des bénédictions extraordinaire. Et vous savez quoi ? Ce message, je l'ai préparé, et vous allez me dire, il est un peu tête en l'air et pas très au fait du calendrier, le pasteur. J'avais oublié qu'on était Pentecôte aujourd'hui. Pour un pentecôtiste, pasteur des assemblées de Dieu. Je vais préparer ce message, c'était une pensée forte sur mon cœur, que tout soit un. Et là, je sais pas, il y a deux jours, je fais, j'ai fêté mon anniversaire de mon fils, le week-end de Pentecôte. Et là, j'ai fait, ah ouais, mais c'est Pentecôte, en fait. Et j'ai connecté comme ça. Et je me suis dit, bah, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Je voudrais vous parler de cette unité de l'Église, d'être un. Et bien sûr, je vous ai parlé de cette prière de Jean 17, de Jésus, qu'il fait. Il dit, voilà, je prie. Et ce texte, tout ce chapitre est extraordinaire. Mais je crois qu'il fait écho à une promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Lorsque le psalmiste, le roi David, a pu écrire dans le psaume 133, et ça commence par ceci, certainement dans votre traduction, ça l'est, « Chant des montées de David », où j'ai mis entre parenthèses dans une version plus contemporaine, « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel ». Parce que c'était l'un des cantiques que les Israélites chantaient pour aller au temple, pour aller rencontrer Dieu, pour aller, avec d'autres juifs, aller dans la présence de Dieu, aller vivre les sacrifices, aller vivre la reconnaissance, aller vivre simplement leur offrande. Ils venaient et ils étaient joyeux. Ils allaient, ils disposaient leur cœur. Est-ce que tu as disposé ton cœur avant de venir ce matin ? Est-ce que tu as vécu un temps de prière en disant « Moi, ce matin, je vais dans la maison de l'Éternel. Alléluia, je vais louer Dieu, je vais rencontrer mes frères et sœurs. Ah, c'est doux et agréable. » On ne le dit pas tout le temps, ça. Pourtant, David le dit, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, j'ai rajouté, et des sœurs, parce que nous ne sommes pas que des hommes ce matin, de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. Et sur le col de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Au rassemblement de ceux qui ont cru, de ceux qui sont contents d'être ensemble pour rencontrer Dieu, il y a la bénédiction. Il y a quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs, pas même dans ta voiture, pas même dans ta cuisine, je ne sais pas quel est ton lieu secret pour rencontrer Dieu personnellement. Mais Dieu a attaché quelque chose de spécial. On le voit, c'est le week-end de Pentecôte, je vous l'ai dit, j'ai commencé à connecter que c'était Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à Pentecôte ? À Pentecôte, Jésus avait dit 10 jours avant, allez à Jérusalem, attendez la promesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés à Jérusalem, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont prié. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Ils étaient ensemble. La Bible nous relate dans Actes qu'ils étaient ensemble. Il y avait les apôtres, Pierre et les dix. Il y avait les femmes, il y avait les frères et sœurs de Jésus. Il y avait ceux qui avaient placé leur espérance, qui avaient expérimenté ce Jésus sauveur ressuscité. Et premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Ça commence à faire beaucoup. Et le dixième jour, Dieu va envoyer la bénédiction. Une bénédiction qu'on ne peut parfois que vivre lorsqu'on est ensemble, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut donner pour, et c'était le saut final à la création de l'Église. Une Église qui ne vit pas appuyée sur le Saint-Esprit, c'est juste un rassemblement de bons amis qui croient en un Dieu cosmique. Excusez-moi de le dire avec des... Mais le Saint-Esprit a été donné pour forger, former, équiper l'Église. Mais j'aimerais parler de tant d'autres bénédictions. Parce que si ça a été le saut final, il y a eu tout ce qui a précédé avant. Il fallait obéir à cette parole de Jésus pour aller dans cette chambre haute et puis persévérer dans la prière et puis le faire ensemble. Ce n'était pas Pierre seul qui devait recevoir le Saint-Esprit et puis le communiquer aux autres. C'était ensemble qu'ils devaient attendre la promesse. Le texte que nous venons de lire parle de demeurer ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, demeurer ensemble, vous avez l'impression qu'on le fait là, ce matin. On demeure ensemble pendant quelques heures et puis voilà, ça suffit. En fait, demeurer ensemble, ça va plus loin. Dans l'hébreu, c'est rester, c'est je choisis de m'asseoir à côté. Ça va même plus loin. C'est carrément habiter. C'est comme si je déménageais pour venir à l'église. C'est je déménage, je change, je libère mes bâtiments, mon adresse, je fais un changement d'adresse, transfert de courrier par la poste pour être dans l'église. Mon lit est dans l'église. Je mange dans l'église. C'était cette dimension-là que David voulait évoquer avec le temple. Cet attachement, cette intimité. Qui n'était pas allé au club des alcooliques anonymes, c'était pas allé au club d'escalade, c'est pas aller et faire une activité et revenir. David avait un attachement à la présence de Dieu avec les autres, au point de se dire mais j'aimerais habiter. D'ailleurs, il le dit dans plein d'autres psaumes. Je souhaiterais habiter dans la maison de l'Éternel. C'est dans ses parvis. Il voulait demeurer. Vous savez que le texte il va encore plus loin. Demeurer, rester, demeurer ensemble, c'est l'image de se marier. On se calme. On n'est pas dans un club de rencontres. Mais c'est se marier, c'est avoir une telle intimité que j'aime passer du temps avec Benjamin. Je veux être dans cette proximité, je veux connaître Benjamin, j'ai envie qu'avec Benjamin on puisse vivre la gloire de Dieu, je veux qu'avec Benjamin nous puissions chercher la face de Dieu, que je puisse recevoir des paroles pour lui et lui des paroles pour moi, parce que Dieu veut nous bénir ensemble. Et on est dans une forme d'intimité, toute proportion gardée, conjugale dans cette intimité. Quand nous nous marions, nous cherchons le bien de celle que nous aimons. D'ailleurs, même devant Monsieur le maire, nous nous engageons à pourvoir à une sécurité affective, financière. Nous nous engageons à vivre sous un même toit. Et c'est pour ça que David va parler de demeurer ensemble. Alors maintenant, j'ai une série de questions, si vous le souhaitez. Est-ce réaliste aujourd'hui, en 2025, et est-ce facile de vivre l'Église comme ça ? C'est pas la définition qu'on a aujourd'hui de l'Église. Mais loin de là. On est dans une société tellement individualiste que l'Église, c'est venir m'asseoir sur une chaise, dire Amen, peut-être éventuellement Dieu va répondre parce que j'ai des besoins. On vient pour soi. Et ça, c'est l'Église d'aujourd'hui. Malheureusement, nous, dans l'esprit religieux, dans la pensée individualiste qui s'est infiltrée dans l'Église, nous ne vivons pas se demeurer ensemble pour chercher la face de Dieu. Et pourtant, Dieu dit c'est possible. Seigneur, t'es trop loin pour voir la réalité Non. L'Église est appelée l'épouse. Donc cette dimension d'intimité, Dieu, ça veut dire qu'il veut pourvoir. Comme sur la terre, un homme doit s'engager à pourvoir aux besoins et aux biens de sa femme, à la sécurité dans tous les domaines. Dieu s'est engagé par le Nouveau Testament, et c'est une alliance, à pourvoir aux besoins de l'épouse. À se dire ce qui n'est pas réaliste, Et je suis sûr que vous dites, vous êtes en train de me faire un listing de tout ce qui n'est pas possible à vivre dans l'Église. Eh bien, Dieu, il dit, c'est possible. Si vous n'êtes pas d'accord, vous en parlez avec Dieu directement. Okay ? Dieu, il a dit, c'est possible. On peut vivre ce que Dieu a prévu pour l'Église. Vous savez, on ne choisit pas sa famille. On le dit ça ou pas ? Ah, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Généralement, ce n'est pas pour parler bien de sa famille. Okay ? Ben, c'est pareil avec l'Église. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'Église est devenue un club avec des amis. Et il faut que mes amis prennent soin de moi et puis éventuellement on fait des barbecues, des activités ensemble, on va faire une randonnée dans la forêt de Boucone et puis il faut que ça se passe bien relationnellement. Mais l'Église, c'est une famille et on ne la choisit pas, comme tu n'as pas choisi de vivre dans telle ou telle, de naître dans telle ou telle famille. Si elle est appelée l'épouse, elle est aussi appelée une famille. Et une famille, on est membres les uns des autres, nous portons un même ADN, un même nom. Et Jésus le dit dans Jean 17, vous l'avez lu avec moi. Mais Jésus connaît les défis que l'Église rencontrerait en 2025. Je te prie qu'il soit un. Et il ne prend pas n'importe quel exemple. Hein. Il ne dit pas qu'il soit un comme un homme et une femme sur la terre. Comme toi et moi, nous sommes un. Entre Dieu et Jésus, ils étaient un. Le même esprit, le scellé, le ministère de Dieu sur la terre. Et il dit, c'est ça le standard. Alors, est-ce facile ? Est-ce réaliste ? Facile, non. Réaliste, si Dieu l'a dit, c'est possible. Est-ce que vous voulez relever le défi de demeurer ensemble ? Il y a plein de promesses qui sont associées quand l'Église est un. Alors, elle est comme un phare dans la nuit. Elle vient à briller. Elle est comme cette ville en haut d'une montagne. Elle est vue de tous. Et je crois que sur l'île Jourdain, nous sommes appelés à être un. Et je vais plus loin, dans l'ouest toulousain, nous sommes appelés à être un. Et il y a quelque chose qui dépasse l'île Jourdain. Il y a des choses qui vont dépasser Colomiers, il y a des choses qui doivent dépasser mon clocher, ma famille, mon foyer. Il y a des choses qui doivent dépasser, il y a un enjeu supérieur à ce que tu es venu chercher ce matin. Ça commence juste à la porte du quai 36. Ce sont tous ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Il y a d'autres promesses, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je pourrais parler en long, en large et en travers, se retrouver à 15h, je serais encore en train de parler, mais vous et moi, on ne veut pas ça. Mais au demeurer ensemble que Dieu promet, dont Jésus a prié pour, il y aura des ondes de choc, un impact dans mon couple, chez mes enfants, auprès de mes oncles et tantes, mes parents, mes amis, mes voisins. Il y a une onde de choc quand on choisit de demeurer ensemble. David, il n'est pas en train de se dire, voilà, oblige les autres à venir dans la maison de l'Éternel. Il dit, oh que c'est doux et c'est agréable. Alors je te pose une deuxième question. Est-ce doux et agréable de vivre l'Église ? Ouais, il y a des amens, alléluia. Bon, ça va alors. Bon nombre sont déçus par l'Église. Certains ont vécu des frustrations, d'autres ont vécu des blessures et ont quitté l'assemblée. Et pourtant, Paul dira, ne quittez pas vos assemblées. Parce que de demeurer, c'est un choix. Demeurer ensemble, c'est accepter de relever les défis de l'Église. D'accepter de, je ne vais pas pouvoir changer ceux à qui je souligne tous les défauts. Ce n'est pas moi qui peux les changer. De relever le défi de demeurer ensemble, c'est être dans cette dimension que David évoque dans le fait que ça soit doux et agréable. Et j'ai trop aimé cette phrase de Guy Galifo la semaine dernière qui disait qu'on reconnaît un disciple à ses réactions plus qu'à ses actions. Et moi je crois que si l'Église demeure ensemble, choisit de demeurer ensemble, alors elle va vivre par la douceur des relations saines et agréables. Parce que le lien suprême qui va nous unir, c'est l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on souhaite ce qu'il y a de mieux pour lui. Quand j'aime quelqu'un, alors je fais preuve de douceur et de prévenance. Quand j'aime quelqu'un, je suis bienveillant envers cette personne. Je cherche non pas mon intérêt, mais le sien. Quand j'aime quelqu'un, quand je choisis de demeurer ensemble, par ce lien parfait de l'amour, alors découle la joie. Dans la joie va découler l'attention. Comment je vais pouvoir prendre soin de Benjamin ? Désolé, t'es mon exemple ce matin. Comment je vais pouvoir intentionnellement dire qu'est-ce que lui, il a besoin ? Peut-être j'ai une liste comme ça de défis devant Dieu personnels. En fait, ce n'est pas ça l'enjeu. Ma vie, Dieu, il la connaît. Comment moi, je vais pouvoir m'intéresser dans la vie, à la vie de Benjamin? Et comment je vais pouvoir bénir lui, sa femme, son fils? Comment je vais pouvoir... Est-ce que nous sommes dans cette mentalité-là du royaume des cieux? Parce que c'est ça l'Église. L'Église qui choisit de demeurer ensemble, elle veut prendre soin des décololos aussi. Alléluia! Quand nous demeurons ensemble, nous chérissons. Il y a une douceur, il y a quelque chose de bon. Et au contact de Benjamin, je dois me sentir bien. Comme lui, c'est réciproque, hein. J'espère que c'est le cas. À mes côtés, il doit se sentir en sécurité. Dis oui. il doit se sentir bien. Ça, c'est la douceur, c'est ce parfum qui est dégagé de l'enfant de Dieu parce qu'il aime. Sommes-nous dans ce rapport-là? Souvent, on a évoqué l'Église comme... Et c'est vrai, avec une mission, des guerriers, il y a plein d'images. Hein. On a l'impression qu'on est des serviteurs qui doivent accomplir une tâche. Alléluia, c'est vrai, on a plein de choses à faire. Vous vous ennuyez à la maison, venez à l'église, on a du travail. Mais il y a quelque chose de supérieur. Il y a cette dimension familiale, d'affection, d'amour, de respect, de bienveillance, de douceur, de joie. Parce que moi, je crois que souvent, nous avons opposé le côté relationnel au côté service alors qu'ils sont complémentaires. Nous avons segmenté, voilà, il y a le service. Si tu es consacré, tu fais du piano. Si tu es consacré, tu fais le ménage. Si tu fais des activités, tu es dans l'église. Je crois que ce serait résumer l'église à un club de bénévoles. Et ce n'est pas ça que Dieu a voulu faire. Il a fait une famille. Pour qu'en plus de ces choses pratiques que nous pouvons faire pour nous bénir les uns les autres, et puis toucher ceux du dehors, nous puissions avoir une relation intime, profonde. Alors on n'aura pas le même niveau, je ne suis pas en train de dire qu'on doit se livrer les uns aux autres sans filtre et tout ça. Non, je ne suis pas là-dedans, on aura des degrés d'intimité avec telle ou telle personne. Ça je l'entends, on a des affinités, je l'entends aussi. Mais moi, Nathanaël, je mets mon prénom, tu peux mettre le tien. Est-ce que tu es prêt à relever le défi de « je choisis de demeurer avec mes frères et sœurs ». Ceux qui viennent au quai 36, ceux qui viennent aux 4 boulevards de Pibrac, qui sont une seule église, un seul corps, l'église Horizon, avec plusieurs sites. Est-ce que nous chérissons cette douceur réciproque? Et est-ce que nous trouvons ça agréable d'être ensemble? À ce point-là va découler les premières bénédictions. Et au travers de deux images dans le psaume 133 que nous avons lu ensemble, David va illustrer la bénédiction qui vient de Dieu. Au travers de deux images, est-ce que vous vous rappelez lesquelles? Quelque chose qui viendrait d'en haut et qui descend sur nous. L'huile et... Alors, il ne parle pas du Saint-Esprit. La rosée. Mais les deux vont parler du Saint-Esprit. Ces deux images vont parler du Saint-Esprit qui vient. Puisque la rosée, elle vient du ciel, elle se dépose sur la terre. Elle condense avec, bon, je ne veux pas revenir dans le détail, mais elle est comme, et la rosée qui est question là, ce n'est pas la rosée réaction thermique qui, par la terre qui chauffe, qui vient perler le sol comme on pourrait le vivre. Là, il est question de la rosée de l'Hermont qui vient de la neige qui fond. Okay, donc c'est cette neige qui vient du ciel et qui vient ruisseler, perler dans la vallée aride au pied de l'Hermont. Et il est question aussi de l'huile, mais je commencerai par la rosée. Quand on pense à la rosée, on pense à quoi? À ces choses-là. T'inquiète, c'est pas grave, Valérie. Quand on pense à la rosée, on pense à l'eau, on pense à un rafraîchissement, on pense à un renouveau, parce que la rosée va appeler de l'eau, va appeler la vie. La rosée va être aussi question dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que Dieu a utilisé. Alors, vous pouvez comprendre, ne pas comprendre, croire ou ne pas croire. Moi, j'ai choisi de croire ce que dit la Bible. Mais au travers de la rosée, la manne, la nourriture arrivait pour le peuple de Dieu. Et ils n'avaient qu'à se baisser pour ramasser et avoir une nourriture suffisante. Pour moi, la rosée, dans ce texte, elle évoque l'une des conséquences quand je choisis de demeurer avec mes frères et sœurs dans l'Église. Il y a un renouveau, je deviens non plus, je quitte le rang des stériles, je deviens fertile et je vis un rafraîchissement. Il y a quelque chose, quand je quitte le lieu de l'Église, je me sens frais, Je me sens renouvelé. J'ai l'impression de porter du fruit. J'ai fait du bien à mes frères et sœurs. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a... Parce que je prends soin des autres, parce que je viens d'une manière désintéressée pour prendre soin des autres et louer mon Dieu, alors Dieu m'équipe. Il envoie sa rosée. Je ne sais pas si aujourd'hui tu traverses l'aridité de l'épreuve. Peut-être tu te sens comme dans un plein désert spirituel. Tu te sens sec, tu es au bon endroit. Dieu veut faire demeurer sa rosée pour rafraîchir ta vie, pour t'amener cette Jésus l'a dit, hein, celui qui a cette source, elle jaillira de lui. Il y a quelque chose de... Je deviens... Peut-être j'ai besoin de quelques gouttes de Dieu. Peut-être quelques gouttes de la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Mais après, je vais me transformer en geyser et jaillir. Je vais être fertile. Je vais porter du fruit. Je vais faire du bien autour de moi. Cette montagne au nord d'Israël, elle recevait la neige. Et une fois fondue, elle alimentait. Et le cours d'eau du Jourdain devenait un fleuve. Et... Cette rosée, je le disais, parle d'un renouveau, d'un redémarrage. Chaque matin, la rosée vient. Chaque matin, elle nous parle d'un cycle de vie. Et Dieu peut-être voudrait te dire qu'il a des promesses pour toi. De renouveau, de nouveau départ. Combien de fois j'ai rencontré des gens désespérés me dire « J'aimerais un nouveau départ, j'aimerais arracher les pages et recommencer. » C'est le Dieu que j'ai connu. Vous êtes au bon endroit. Dieu, il accorde le renouveau, le nouveau démarrage. Peut-être c'est dans une histoire de couple, peut-être c'est les parents avec les enfants. Et on est comme à bout, on est dans une impasse. Et Dieu, c'est le Dieu du renouveau. On est au bon endroit pour vivre ces choses-là. Parce que lorsque nous prêchons Christ crucifié, Christ ressuscité, lorsque nous chérissons cette relation-là que nous avons ensemble, alors nous vivons, même au sein du désert, cette rosée qui vient chaque matin. Et chaque matin, Dieu envoyait cette rosée qui perlait à l'horizon. Et quand le soleil venait faire disparaître cette eau, la manne était là. Au sein du peuple de Dieu, il y a une nourriture que tu trouveras nulle part ailleurs. Mais tu en as besoin à chaque fois que nous nous réunissons. Tu ne peux pas faire de réserve. C'est une promesse qui se vit qu'aujourd'hui, et elle périme à 12h30, lorsque nous serons... Oui, je le dis, nous avons des bénédictions à vivre maintenant. Cet après-midi, ça sera trop tard, tu ne pourras pas vivre la bénédiction du peuple de Dieu. C'est maintenant, et ça dépend que de toi. Est-ce que tu vas sortir de ta tente comme Israël pour aller ramasser la manne qui est arrivée dans la rosée, cette nourriture suffisante? Au sein du peuple de Dieu, il y a un temps de rafraîchissement, de fertilité, de nourriture pour toi. Dieu sait ce dont tu as besoin. Mais est-ce que tu auras au moins la force de te baisser pour ramasser? La manne, elle était au sol. Le peuple de Dieu devait... fléchir le genou pour la ramasser. Des fois, il suffit juste de courber mon cœur, de demander à Dieu, de fléchir le genou, d'abandonner toute résistance. Qu'est-ce que tu retiens? De quoi as-tu peur? Peut-être c'est le moment d'abandonner ça. Dieu veut renouveler, amener cette rosée. Mais la deuxième image qui est question dans ce texte, c'est l'huile. L'huile, elle est omniprésente dans la Bible. Je me suis arrêté là, je me suis dit, arrête, tu vas faire que lire une série de versets, ça ne sert à rien. Vous pourrez le faire à la maison, il y a tant de choses à dire sur l'huile. Mais l'huile, les trois quarts du temps, et en prenant une image simple, celle du bon samaritain, elle vient pour apaiser. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un renouveau, tu ne te sens pas sec et tout ça, mais tu te sens meurtri. Il y a des douleurs plein le corps, peut-être plein ton âme, plein ton esprit. Et Dieu veut faire demeurer son huile. Il a prévu cette huile-là, cette huile de consolation, cette huile d'apaisement qui vient jusqu'à de la lidocaïne, ça vient anesthésier localement. Il y a peut-être une blessure que Dieu a besoin juste de poser le doigt, poser une goutte d'huile. Ce qui est dingue, c'est... Pour moi, il y a une faute d'asepsie criante dans la parabole du bon samaritain. C'est que l'homme blessé, laissé pour mort, qui a des plaies, voilà, il se vide de son sang. La première des choses que fait l'urgentiste, le bon samaritain, il met de l'huile. Non, mais là, il va y avoir infection, septicémie, il va mourir. Il met l'huile d'abord, et après il met le vin. C'est pas logique. Je suis désolé, c'est pas logique. Humainement, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait désinfecté et puis après mis un anesthésiant pour apaiser la douleur. Un petit doliprane et c'est reparti. Mais Dieu, il a sa logique à lui. Quand on est à vif, quand on est meurtri, on n'a pas besoin de paroles aseptisantes. On a besoin de consolation. Dieu sait, et il sait comment s'y prendre, pour nous prendre dans ses bras, nous consoler. Et après, il s'occupera de guérir l'intérieur. Dieu, il a sa logique. Et le bon samaritain, Jésus ne s'est pas trompé d'ordre quand il a dit les choses. Il l'a dit exactement comment Dieu veut le faire. Dieu veut apaiser ton âme parce que l'huile qui vient, c'est une huile de consolation. Et après la consolation, viendra la joie. Parce que dans la Bible, l'huile, c'est une huile de joie, une huile parfumée. J'ai appelé ça l'huile de la trace des escargots. Je m'explique, on se calme. Quand l'huile était abondamment répandue sur le sacrificateur qui était à Aaron, on voit, hein, elle vient sur la tête, le vêtement, et jusqu'aux ourlets de ses vêtements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien d'huile il faut pour recouvrir une personne. Plusieurs litres, entre 3 et 10 litres en fonction des cornes qu'ils avaient. Ça fait beaucoup d'huile. Mais cette huile, elle avait des particularités. Elle était parfumée, selon l'ordre des parfumeurs, quelque chose qui était consacré que à cette huile-là. Et cette huile de consolation que Dieu veut déverser sur ta tête, il veut t'envelopper entièrement. Il n'y a pas un seul aspect de toi qu'il ne veut pas consoler, apaiser. Mais derrière, il y a des promesses extraordinaires. Cette huile, c'est une huile de joie. Elle vient te faire du bien, ça va se voir, ça va se sentir. Cette huile, elle avait un parfum unique. Elle n'était utilisée que pour oindre des sacrificateurs, oindre des prophètes ou des rois. On ne l'utilisa pas pour se faire beau le matin. C'était une huile dont Dieu avait donné la recette. Elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Mais cette huile, elle est tellement abondante, et la consolation de Dieu, elle est tellement généreuse et abondante qu'elle coule partout par terre. Et quand tu vas te déplacer, on va reconnaître derrière toi où a commencé la consolation de Dieu. Moi, j'aimerais que les gens puissent revenir et dire, c'était au quai 36. Et là, tu reviens chez toi et tu as tracé l'itinéraire pour le lieu de la bénédiction quand on est ensemble. Dieu a consolé au quai 36, alléluia, viens, suis-moi le chemin, c'était par là. Et Dieu met son huile de consolation. Et il y a plein d'escargots qui partent du quai 36 et qui laissent une trace comme celle-là. C'est pas très ragoûtant l'escargot, je suis d'accord. Mais pensez à cette image, cette trace. On reconnaît les escargots dans notre jardin, on les piste à leur trace. Et après, bon, après on les écarte de l'équation du jardin. Mais ça, c'est un autre registre. Mais on les reconnaît à leur trace. Moi, je crois que quand Dieu console, il le fait tellement bien qu'il y a un témoignage qu'on ne peut pas garder. Il y a cette consolation, cette huile de joie qu'il met sur ma vie, je suis obligé de la communiquer. Lisez le psaume 40, il est au fond du trou, et à la fin, il est en train de chanter des cantiques, et les autres le voient, ils voient le changement, ils voient la transformation, ils voient la consolation, ils voient la joie, et à leur tour, ils se tournent vers Dieu, ils remontent la trace de l'escargot pour voir le lieu où il y a eu la bénédiction. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vivre cette rosée, mais aussi de vivre cette huile selon les mesures. Et Alain, tu avais raison. Autant la rosée que l'huile pointent dans une seule direction, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Il vient d'en haut et il veut se mettre premièrement au fond de mon cœur parce que Dieu veut faire de mon cœur sa demeure. Il veut faire demeurer sa présence dans ma vie. Et au-delà de prendre soin de l'extérieur, je vous parle de l'extérieur depuis tout à l'heure, Dieu veut habiter l'intérieur. Afin que tu puisses chanter et dire avec moi, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Je ne sais pas si tu es fatigué de lutter par tes propres forces. Moi, je le suis. Moi, je me fatigue tout seul. J'ai besoin de personne. Je me fatigue et devant le Seigneur, je m'humilie. Je dis jusqu'à quand, Seigneur, je vais encore faire ou m'inquiéter ou essayer de... Alors, il faudra telle stratégie pour prendre soin de telle personne et puis on va faire tel rendez-vous et puis après, on va prier dans tel sens, on va lui lire tel texte. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ton couple, tes enfants, je ne sais pas quel est le domaine, si c'est professionnel, si c'est familial ou c'est le chaos, et tu as essayé par force, par volonté, par technique, par conseil, par « je suis allé voir tel spécialiste » et ainsi de suite. Venez, juste on dépose les armes. On vient se mettre à genoux et on laisse mettre Dieu sa rosée et son huile pour qu'il s'occupe vraiment de nous et que nous puissions après nous occuper de ses affaires à lui. Parce que je ne sais pas si vous avez rendu compte, ce n'est pas n'importe qui sur qui tombe l'huile. c'est qui? Vous vous rappelez du prénom qui a été utilisé? Aaron. Et c'est qui Aaron dans la Bible? J'ai pas entendu en fait. C'est le frère de Moïse. Et il faisait quoi? C'est un Lévite. Et dans les Lévites, il était quoi? Un sacrificateur. Et dans les sacrificateurs, il était quoi? Souverain sacrificateur. C'est le seul, le premier, enfin le premier, et on va dire, et le seul quand il était là, qui avait le mandat et l'autorisation d'entrer dans le lieu très saint. Je récapitule juste le schéma. Vous avez l'extérieur du tabernacle. Vous rentrez dans la cour, il y a l'autel des sacrifices. Et plus vous allez dans une direction, plus vous allez au lieu où il y a qu'à la fin, il n'y a qu'une seule personne qui peut rentrer. Et encore, on lui attachait une corde au cas où, s'il n'était pas bien prêt. Bref, lui, il allait sur le souverain sacrificateur. Parce que l'esprit que Dieu veut mettre sur toi, oui, c'est pour s'occuper de l'intérieur, nous rafraîchir, nous consoler. Tout ça, c'est vrai. Mais lui aussi nous équiper pour la tâche qu'il nous a confiée. Et ce n'est pas pour rien que ce sacrificateur, Aaron, utilisé dans ce texte, nous parle du service. Le sacrificateur, il était là pour des choses pratiques. Il était là pour s'occuper des autres. Il était là pour que, quand les gens venaient avec la culpabilité, le poids du péché, ils s'occupent du sacrifice pour qu'ils repartent libres. Alléluia! Il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est venu. Une fois pour toutes et une fois pour tous, il est venu régler une seule fois la question du péché. Nous pouvons, sans se dire « moi j'ai envie d'être Aaron », parce que tu ne pourras pas, nous sommes tous appelés maintenant et nous pouvons, parce que le voile a été déchiré, entrer dans la présence de Dieu, là où il fait demeurer son esprit, là où il fait demeurer son esprit pour t'équiper. Aujourd'hui, nous n'avons plus à espérer d'être, par nos propres forces, être trouvés agréables à Dieu. Jésus a accompli ce miracle. Alléluia. Tu n'as qu'à venir te ranger derrière Jésus, c'est lui qui t'amène à Dieu. Amen. Et pourtant, dans Apocalypse 1:5, Jésus qui nous aime, et il est dit ceci, hein, le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Alléluia. Amen. Je peux aller vers Dieu. On s'arrête là. L'apôtre Jean dit autre chose reçue de Dieu. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance pour toujours. Amen. Nous sommes appelés comme à être des Aaron, mais dans la part qui nous incombe aujourd'hui. À être de ceux qui s'occupent des autres, de ceux qui s'occupent de l'œuvre de Dieu. Et quand je regarde, si dans le tabernacle, si j'ai plus à m'occuper de l'autel, qu'est-ce qui me reste? Le sacrificateur s'occupait de l'autel, mais qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Est-ce que vous le savez? Ah, question technique là. Hein. Là, je vous ai parlé, l'autel il est en dehors de la tente même. Qu'est-ce qu'il devait faire, le sacrificateur et les sacrificateurs? Ah bah justement, si l'extérieur, Jésus s'en est occupé une fois pour toutes. Les lampes. Dedans, il y avait trois objets. Le chandelier, qu'on appelle la menorah. Les pains. Et un troisième. Les pasteurs sont disqualifiés sur ces... Ah, bon, ça va. Et l'autel des parfums, ok? Aujourd'hui, si Jean a dit que nous sommes appelés à être un peuple de sacrificateurs, il l'a fait dans ces trois aspects-là. La première, c'est la lumière. La lumière, par définition, elle attire et en même temps, elle rassure. Aujourd'hui, tu es porteur de lumière. Autant le sacrificateur devait s'assurer que la lumière brûle tout le temps, qu'il y ait tout le temps de l'huile, qu'il n'y ait pas de mouche, fallait qu'il nettoie, fallait... Et ça nous parle du témoignage. Est-ce que ta vie, elle rassure et elle attire les gens? Est-ce que tu es comme cette lumière qui va aussi disperser les ténèbres? Est-ce qu'à ton contact, les gens, ils trouvent la solution? Non pas dans ta sagesse humaine, mais dans ce que Jésus a mis en toi, de ce que tu pourras guider vers Jésus, de ce que tu pourras prier, de ce que tu pourras prendre autorité dans la prière, en disant, voilà, mon frère, ma soeur, tu souffres dans la... Ok, je vais m'associer à toi et on va prier, on va combattre ensemble. Est-ce que tu es comme cette lumière ? Question personnelle, je l'accorde. Mais Dieu t'invite aussi à t'occuper dans la dimension du pain, de la table des pains de proposition, à être cette nourriture. Jésus l'a dit, nous sommes appelés à être une nourriture. Et il l'a dit à un moment, dans un moment critique où les apôtres s'inquiètent pour cette foule-là, mais comment on va faire pour les nourrir ? Jésus leur dira, donnez-leur vous-même à manger. C'est pas possible. 5000 hommes, parce qu'on comptait que les mâles, peut-être 15 000 personnes, selon certains commentaires, c'est impossible. Et pourtant, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Moi, je crois que quand on choisit de demeurer ensemble, l'une des bénédictions qui découle de ce que Dieu veut faire demeurer sur nous, c'est un équipement surnaturel pour être cette nourriture que le monde recherche tant. Le monde est en quête spirituelle. Le monde cherche des solutions. Il n'y a jamais eu autant de développement personnel, de coach, de gens qui sont là, qui s'autoproclament, qui se forment pour essayer d'améliorer la vie des autres. Les gens sont en pleine recherche. Ils ont des agendas, là, ils sont pleins de rendez-vous et ils donnent des conseils humains. Mais la vie, elle ne change rien par des conseils humains. Dieu a dit que la nourriture, c'était à nous de la donner. Le sacrificateur s'occupait des pains. Et les pains, ben, ce n'était pas des pains secs, rabougris. Ils étaient changés chaque jour et ils étaient assaisonnés. Ils avaient une saveur unique. Moi, je te pose la question. Est-ce qu'à ton contact, les gens ont une nourriture savoureuse ? Et est-ce que ce pain, il est pour tous, sans exception ? On a besoin de s'occuper de cette nourriture qu'on doit dispenser. Mais le troisième, et vous l'avez dit, c'est l'autel des parfums. Est-ce que ta vie, elle est comme ce parfum ? Elle témoigne de la direction à suivre. Est-ce que, mon ami, le parfum que tu dégages, et je le disais avec la trace de l'escargot, je fais ce parallèle-là encore, elle est comme un parfum, elle pointe le ciel. Et est-ce qu'elle est de bonne odeur ? Toutes ces images ne sont que des images avec des aspects pratiques de ma vie. Mais est-ce que tu es prêt à le vivre avec les autres ? Parce que tu peux le vivre à titre personnel, mais on se tromperait. Le sacrificateur, il n'était pas sacrificateur pour lui, il était pour les autres. Et Dieu nous invite à être sacrificateurs pour Dieu, mais pour le prochain. Est-ce que tu voudrais entrer dans ces promesses-là ? Je te pose la question, elle est vraiment ouverte. Parce que j'arrive et je termine avec cette dernière image. Dieu veut que nous soyons un. Est-ce que tu es prêt à être un selon les standards de Dieu, selon ce que Dieu a dit que c'était possible, mais nous, on n'arrête pas de dire que c'est impossible, pour vivre l'abondance de ses bénédictions et pour le servir efficacement. Moi, je crois que la seule prière qu'on a besoin de faire ce matin, ensemble, et je le dis bien ensemble, comme dans la chambre haute, c'est « Viens, Saint-Esprit, viens par ta rosée, viens par ton huile, viens sur ma vie, viens sur nos vies. » Et ensemble, nous voulons vivre cet équipement qui s'occupe de l'intérieur et qui va jaillir vers l'extérieur. Dieu veut que nous puissions avoir ce bon témoignage autour, sur l'île Jourdain et tout cet ouest toulousain. Dieu veut nous unir par son esprit. Il veut nous faire travailler ensemble. Là où les hommes échouent, l'Église réussit parce qu'elle compte sur Dieu et son esprit. Est-ce que vous le croyez ? Amen ? Amen ? Est-ce que vous le croyez ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut prier ensemble pour demander « Saint-Esprit, viens ? » Alléluia ! Vous n'avez pas l'air convaincu. Si, ça va ? Si, ça va ? Alléluia ! Alors j'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Et on va demander ensemble la grâce de Dieu. Alléluia ! Oh Jésus, alléluia, surramana yetende yele sudolo manda gadielelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Et je vais t'inviter à l'écoute de ce chant, peut-être juste à laisser Dieu pénétrer ton cœur et à réaliser qu'il t'aime et que ce qu'il a prévu de te faire vivre ce matin, c'est une bénédiction que tu ne pourras vivre qu'avec le peuple de Dieu. Et après ce chant, on prendra un temps de prière. On prendra un temps de prière pour peut-être ceux qui ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit,